Donc, je vous propose de commencer. Est-ce qu'il y a de nouveaux participants ? Oui. Ah. Donc, on va rappeler un peu brièvement les règles de fonctionnement de Philomania.
Oui.
Donc, les règles de fonctionnement, c'est que dans l'Assemblée, donc, tout le monde peut proposer un sujet. Voilà. Nous acceptons autant de sujets qu'il y en a. Voilà. Et ensuite, donc, on va passer au vote. Donc, vous pouvez voter autant de fois que vous le désirez pour les sujets donc, qui vous intéresseraient de discuter ce soir. Et le sujet qui a obtenu le plus de nombre de voix sera le sujet sélectionné. Voilà. Donc, juste un tout petit rappel, ce soir on est en café philosophie, mais ah, voilà, je le perds. Le mardi, donc 28 février, à 19h, ici même, dans la salle qui est derrière nous, qui est plus importante, nous allons donc recevoir Dany Robert Dufour, qui fera une conférence sur grandeur et décadence de l'utopie capitaliste. Donc là, ça ne sera pas un café philo, hein, ça sera une conférence. Voilà. Donc, Dany Robert Dufour mettra en place sa conférence. Et ensuite, il y a toujours un temps d'échange. Hein. Donc, voilà, vous pourrez intervenir sur les propos entendus. Et ensuite, il y aura, comme d'habitude, le pot de convivialité. Il me semble, Marie-France, je parle sous votre gouverne.
Alors, comptez un micro, peut-être, ça ne va pas m'entendre.
Allez-y. Donc après les cafés philo, on fait un repas partagé. Donc on propose à tout le monde d'amener quelque chose qui puisse se manger debout et on met tout en commun. Mm-hmm. Mais comme pour les conférences, on est beaucoup plus nombreux, ce serait pas gérable. Et là, l'association casse la tirelire et offre un pot de façon à ce que les participants puissent échanger en privé s'ils le souhaitent avec le conférencier ou avec les autres participants qui, pendant le débat, ont dit quelque chose qui les a interpellés. Voilà. Donc, il y a toujours ce moment d'échange et de convivialité, donc, même avec les conférences. Voilà, donc je vous propose de lancer les sujets. Est-ce que certains d'entre vous ont des sujets à proposer pour ce soir ? Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Les sujets que je voudrais proposer partent d'une affirmation. C'est une perception que j'ai qu'il y a beaucoup de tolérance au harcèlement aux écoles. Et donc, mon sujet, c'est pourquoi il y a autant de tolérance au harcèlement aux écoles, aux collèges.
De tolérance. Donc, vous trouvez que c'est trop tolérant ?
Oui, je pense que ça passe beaucoup et il y a une certaine tolérance que je ne comprends pas.
D'accord, ok. Donc, trop de tolérance hein, dans les lycées et collèges et les écoles. Donc, dans tout le système éducation nationale jusqu'au baccalauréat. D'accord. Oui ?
Moi, c'est le paradoxe de l'humain face à la guerre et à la violence.
D'accord. Donc, le paradoxe de l'humain face à la guerre et à la violence. D'accord.
Alors, pour moi, ce serait... réfléchir autour du mot utile. Là, actuellement, on est dans proposition de la réforme des retraites, mm-hmm. qui devrait être utile. Quand on vote quelquefois utile. Quand on est, par exemple, à la retraite, on a envie de se sentir utile. Voilà, donc...
Qu'est-ce qu'être utile ?
Qu'est-ce qu'être utile ?
Qu'est-ce que l'utile plutôt ?
Qu'est-ce que l'utile ? Dans notre société capitaliste, est-ce que c'est une des valeurs qui est mise en avant ?
D'accord. Voilà. Donc le problème de l'utile.
Voilà.
Voilà, d'accord. Ok.
Oui. Je crois qu'un philosophe. Un philosophe. Oui, un philosophe. À parler de cette question, donc je retranscris un petit peu, c'est qu'est-ce que les politiques connaissent de l'âme ? est-il une connaissance de l'âme? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin,
Oui, peut-il y avoir une politique spirituelle ou...
Non, les politiques, que connaissent les politiques
de l'âme? Que connaissent les politiques de l'âme humaine? Que connaissent les politiques de l'âme humaine? D'accord. Une autre proposition? Oui.
Est-ce qu'on peut parler de démocratie autoritaire? On en parle de plus en plus dans notre période actuelle. Est-ce que c'est possible?
Voilà. Peut-on parler de démocratie autoritaire? Oui.
L'ignorance est-elle une entrave à l'évolution?
D'accord. L'évolution en général ou avec une idée un peu plus précise ou une interrogation un peu plus précise?
J'aurais plutôt tendance à dire l'évolution humaine.
L'évolution humaine. D'accord.
Le progrès qui a déjà été un peu abordé il y a un mois.
D'accord. Donc c'était le début de la question? L'ignorance peut-elle être une entrave à l'évolution humaine? Ouais. C'est pas mal déjà. Voilà. Alors, si on revient sur le premier sujet, c'était trop de tolérance à l'école. Avec un E majuscule. Ah, voilà. Trop de tolérance à l'école. Ça vous dit? On passe au vote. Qui voudrait traiter ce sujet? Trop de tolérance à l'école. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite, on avait...
Le paradoxe de l'humain face à la guerre et à la violence.
D'accord. Paradoxe de l'humain face à la guerre et à la violence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Ensuite, le problème de l'utile.
Le problème de l'utile. Qu'est-ce que l'utile? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Qu'est-ce que les politiques connaissent de l'âme humaine?
Qu'est-ce que les politiques connaissent de l'âme humaine? 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7.
La démocratie autoritaire.
La démocratie autoritaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Et enfin, l'ignorance est-elle une entrave à l'évolution humaine?
L'ignorance, une entrave à l'évolution humaine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18.
Je crois que incontestablement la démocratie autoritaire fait la course en tête.
D'accord. Donc la démocratie autoritaire. Qu'entend-on par démocratie autoritaire? Je vous laisse la parole pour expliciter un peu, peut-être ne serait-ce que la raison de cette interrogation. C'est madame.
Depuis très longtemps, on fait le partage entre démocratie et régime autoritaire. Pendant très longtemps, on faisait cette distinction, alors qu'à notre époque, surtout actuellement, on parle de plus en plus de démocratie autoritaire. Mmh. C'est-à-dire, le pouvoir est au peuple, mais finalement, qu'en est-il exactement ?
Mmh.
C'est souvent les classes politiques dirigeantes qui arrivent à détourner peut-être des législations et deviennent de fait autoritaires.
Mmh. Donc du coup, est-ce que ça fait sens de lier démocratie et autoritarisme ? Et est-ce que ça ne remet pas en cause, du coup, la notion même de démocratie ?
Voilà, c'est ça. Mmh. Exactement.
D'accord. Mmh. Parler de démocratie autoritaire, est-ce que ça nous laisse encore dans une démocratie ? Mmh. Qu'est-ce que ça éveille en vous ? Oui, madame.
Pour moi, démocratie et autoritaire, c'est antagoniste.
Voilà.
Donc, ça n'est, si c'est autocrate,
c'est pas une démocratie. C'est une démocratie, ça ne peut pas être autocrate. Même si, je peux penser certaines choses.
Je suis d'accord avec vous.
Moi, j'ai une avis différente. Je pense que la démocratie, c'est l'autorité de la majorité. Parce qu'on ne va jamais se mettre d'accord, tout le monde. On doit se soumettre. Et la démocratie, à mon avis, c'est ça, l'autorité de la plupart.
Mm-hmm. Donc, du coup, peut-être avec une distinction entre autorité et autoritaire. Ah. Oui.
Après, ça, je pense qu'il y a une connotation d'éducation sociétale. Je dis ça parce que je pense à notre chinoise qui vient, qui n'est pas là ce soir, je crois, je ne l'ai pas vue, mm-hmm. qui, le dernier coup, était subjuguée par la façon dont on avait une démocratie sur le territoire européen, alors qu'elle n'avait pas du tout la même valeur vis-à-vis de ce qu'elle a vécu, elle, dans son pays, en disant mm-hmm. qu'on était justement trop tolérant.
Mm-hmm.
Alors, la Chine n'est pas forcément une démocratie, mais elle vient en Europe où elle découvre la démocratie, et pour elle, ce n'est pas du tout assez sévère.
Ouais. Pas suffisamment autoritaire. Voilà.
Ouais. Quand ils ont fait la révolution, c'était d'autorité parce que des têtes ont été coupées. Hein. Mais voilà, la question est posée là. Par quelle civilisation on peut avoir ce propos ?
Ouais. Et qu'est-ce qu'on attend peut-être aussi d'une démocratie ?
Oui, ce que je dis, dans une démocratie, ceux qui ont perdu, les minoritaires, doivent aussi accepter d'avoir perdu, car même à 51%, eh bien, ils doivent subir un peu une décision qui n'est pas la leur.
Mmh. Donc c'est ça, c'est le poids de la majorité.
Oui.
Ouais. Est-ce qu'il y aurait une dictature de la majorité ? Ouais. Oui.
Je voudrais quand même déjà préciser quelque chose. On fait l'opposition entre le totalitarisme et la démocratie. La démocratie, à l'origine, ça part du démos, qui est le peuple, et alors que l'autre, c'est détenu le pouvoir par un ou un petit groupe.
Un petit groupe d'individus.
Voilà. Mm-hmm. On parle même maintenant, aujourd'hui, de technocratie, parce que la technologie a pris le pouvoir, entre guillemets, sur l'humain. Il faut peut-être remettre en cause la question de quel est le sens et le poids du pouvoir que le peuple détient.
Mmh.
Là, aujourd'hui, on a une assemblée qui débat notamment des retraites. Est-ce que ça ne serait pas une bonne question qu'on arrive à déjà vérifier que nos représentants nous représentent correctement ?
Mmh.
Est-ce qu'ils ont les bonnes idées que par leur spectre, est-ce que ça correspond vraiment à ce que le peuple qui a été élu, enfin, le député ou le sénateur qui a été élu, représente bien son peuple, les idées qu'il partage et qu'il débat.
Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a une vraie représentation au sein de nos institutions, en fait ?
Oui, et puis surtout la question du conflit d'intérêts, c'est majeur, quoi. Enfin, à partir de ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui a un un intérêt caché et qui n'en parle pas, bah, finalement, à quoi ça sert quoi.
Au niveau au niveau de nos représentants.
Exactement.
Ouais. Mm-hmm.
Ça vient un peu dans le sens de l'utile, du coup.
Ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'ils doivent voter utile ? Et du coup, utile pour qui ? Utile pour eux ?
Pour le peuple.
Ou utile pour nous ?
Pour la démocratie, pour Demos. Mm-hmm.
Oui, moi je pense que la démocratie, effectivement, c'est le pouvoir du peuple, donc de la majorité. Je pense que ce qui interroge, c'est le vote. En fait. Mm. C'est le problème du vote qui va donner une majorité. C'est comment on instrumentalise le vote éventuellement pour arriver à faire une majorité en faisant voter des gens. Donc c'est tout à fait démocratique, mais qui vont faire sortir du chapeau des personnes qui ont intérêt, pour tout un tas de raisons, à être au pouvoir. Et du coup, il me semble que la démocratie ne peut fonctionner que si les gens sont parfaitement éduqués, ont un esprit critique, sont libres de réfléchir et d'avoir un libre arbitre. Et ça, c'est effectivement le problème après des démocraties, c'est comment fonctionne l'école, comment on éduque les gens à être citoyens, et comment, effectivement, on peut être sûr, du coup, que ce sera représentatif, parce que les gens qui vont être élus seront effectivement, non pas élus avec un discours démagogique qui promet un tas de trucs et qui font que les gens tombent dans le panneau et votent et après on dit, bah, ça y est, on a été élu démocratiquement, on a dit ça, on le fera, c'est normal, on a la majorité, mais que les gens soient capables de remettre en question les promesses électorales et de réfléchir vraiment sur ce que c'est que pour le pays, comment il faut que le pays soit bien gouverné dans le monde, pour l'économie, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les retraites, pour tout un tas de trucs. Il faut, je pense, que à la base, les gens soient capables de réfléchir et d'interroger la société, en fait.
Mm-hmm. La capacité à penser par soi-même, hein, c'est ça, à ne pas être dupe. Oui.
Alors justement, j'allais parler du vote, moi. Ça tombe bien. Dans notre démocratie qu'on connaît, les autres pays, je ne sais pas vraiment, mais on va parler d'un autre, parce que je connais plutôt celle-ci. Il y a un suffrage blanc.
Mm.
Voilà. Alors, 100 personnes votent. Il y a 87 d'abstention, 2 oui, 1 non, 2 oui en porte. Mmh. C'est là qu'il y a un problème démocratique, parce qu'effectivement, on ne tient pas compte de ceux qui ne sont pas contents. Après, on dirait, c'est que les gens qui n'étaient pas contents, ils ont quand même mettre des idées. Mais les idées, en fait, on les donne à ceux qui ont fait des études, qui sont basées plutôt sur la technocratie, justement, ceux qui sont forts en maths, par exemple, parce que c'est quand même l'éducation nationale a basé longtemps son éducation là-dessus. Et on a dit que ceux qui sont forts en maths, c'est eux qui vont pouvoir diriger le pays. Alors c'est pour forcément ça que ceux qui sont intelligents, confusion entre le QI et QE, sachant que beaucoup de grands chefs ont eu plus de QE que de QI, ont su s'entourer de QI. Quoi. Donc voilà, vote blanc, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que la démocratie fait partie, on en tient compte ?
Alors juste peut-être exposer la définition du QE et du QI, c'est peut-être pas clair pour tout le monde.
Alors, le quotient intellectuel, c'est une capacité à être intelligent sur un sujet particulier. Donc là, en éducation, on était beaucoup basé sur les maths. Le quotient émotionnel, c'est la capacité à avoir des émotions, les ressentir très fort, pouvoir faire un accompagnement, surtout pour les autres, c'est un côté un peu altruiste, et qui permet de pouvoir avoir, par le côté altruiste, gérer plus, faire du management, plus facilement que quelqu'un qui est un QI sans QE. Quoi. Mmh. Ouais.
Est-ce qu'on pourrait dire que ça se distingue une intelligence émotionnelle d'une intelligence conceptuelle ?
Oui, parce que c'est très à la mode de dire on est HP, mais dans les HP, il y a E ou I, intellectuel. Donc, et souvent, dans ce que je connais de l'histoire, quand on regarde un peu les gens, Napoléon, je ne sais pas, peut-être un peu à part, mais beaucoup les HP, eux, émotionnels, savaient s'entourer de gens intelligents pour écouter leurs conseils et après trancher en fonction d'une émotion. Et là, l'émotion dans l'actuelle politique, comme disait tout le monde, on est tous d'accord presque, on n'en tient pas vraiment compte. Les dirigeants, ils vont, eux, pour dans un premier temps, sûrement, pour organiser pour une démocratie pour tout le monde. À part les Vanessa qui habitait dans un petit studio tout minable, par rapport à ce qu'on connaît chez nous, je vois pas d'autres, effectivement, surtout en France. Quoi.
Alors, du coup, ça pose quand même le problème, à savoir, est-ce que nos représentants prennent vraiment leurs décisions par rapport au bien commun, si je comprends bien, voilà, par rapport à une logique d'intérêt général ? Est-ce qu'ils prennent leurs décisions suite à des logiques personnelles, qu'on pourrait aussi nommer des lobbying, en fait ? Est-ce qu'ils suivent un certain nombre de lobbies qui les amènent à voter comme ils votent ? Et du coup, troisième possibilité, est-ce que nos démocraties ne sont pas en train de devenir donc des technocraties, c'est-à-dire en fait, le pouvoir ne serait peut-être pas là où on le pense, mais dans une logique technocrate ou bureaucratique, et du coup, qui prend véritablement les décisions? Voilà, ça interroge en tout cas. Ouais.
Oui, je voulais juste dire, le problème aussi, c'est les médias qui peuvent nous induire en erreur en disant des fausses vérités, et ce qui nous fait voter, je dirais, de la mauvaise façon, puisqu'on n'a pas toute la connaissance et toutes les vérités pour donner une bonne opinion et aller vers la démocratie.
Pour pouvoir voter en toute connaissance de cause.
Oui.
Il y aurait une manipulation peut-être par les médias.
Ouais. De plus en plus, je pense.
Ouais. Il y avait... Et puis, votre madame. Oui.
Oui. Personnellement, bon, je voudrais interroger le vote d'abord, parce que le vote n'est qu'un moyen de prise de décision collective. Est-ce le seul moyen de prise de décision collective? Ça, c'est ma question concernant le vote. Et est-ce qu'il suffit d'être élu pour être démocrate? Il me semble que le vote permet d'occuper un poste, mais ne définit pas la façon dont la fonction va être exercée. Et un régime démocratique demande une certaine façon d'exercer certaines fonctions.
Que certaines fonctions soient exercées démocratiquement.
C'est ce ça. Que j'appelle certaines façons, oui.
Ouais,
parce que je laisse ouvert aussi l'interprétation de démocratiquement. Est-ce que le vote suffit pour définir une démocratie? Personnellement, je ne le pense pas.
Ce qui serait intéressant, c'est peut-être aussi de savoir pourquoi aujourd'hui on en vient à parler de démocratie autoritaire. Quel est peut-être ce ressenti qui naît en nous et qui fait...
Alors, il me semble, voilà. Pour compléter par rapport à mes deux questions, il me semble que l'on se contente du vote pour déclarer comme démocratique un régime où, en fait, les décisions sont prises autoritairement.
Ce qui veut dire que celui qui vote, il a beau voter, il n'a pas le sentiment de vivre sous un régime démocratique. Ça serait ça. Voilà.
Il n'a pas le sentiment et en tout cas, il n'exerce pas d'action particulière qui pourrait s'exprimer par rapport aux décisions prises.
D'accord. Ah ouais. Donc, il y avait monsieur ? Oui ?
Une fiction de la démocratie finalement,
oui.
Car l'opposition entre démocratie et autoritarisme se repose sur le fait qu'il y a une partie, une personne ou un groupe de personnes qui exerce le pouvoir, et pas le peuple. Et on pourrait plutôt parler de lobbycratie, peut-être, où c'est un groupe d'intérêt qui a mis en place un système. Et nous pensons avoir élu un régime ou un groupe au pouvoir, mais que finalement, et ces groupes qui a monté un projet qui exerce le pouvoir au nom de tous. Je rejoins quand on dit le vote blanc, que tous ceux qui n'ont pas voté, ceux qui n'ont pas porté un projet, qui ne participent pas en quelque sorte à cette fiction de démocratie, car ils savent que c'est un groupe qui s'est imposé avec une machine électorale qui va exercer le pouvoir et va mettre en place un projet. Un projet de société, mais finalement, quand on voit le lobbying qui s'opère à Bruxelles, là où on prend les décisions, on se rend compte que c'est plutôt les groupes qui disposent de tous les moyens à mettre en place leurs projets, qui finalement sont adoptés en tout cas pour l'Europe.
Il y a des véritables groupes de pression, quoi. Voilà.
On vit dans un système de lobby classique.
Tout à fait. Je crois qu'il est éteint, votre micro, Marie-France.
Je disais que je vois que les prises de parole se bousculent un petit peu. Donc, du coup, on va privilégier les personnes qui demandent la parole pour la première fois.
Tout à fait. tout le monde puisse s'exprimer, ou en tout cas un maximum de personnes. Donc, qui veut, du coup, intervenir? Voilà.
Le micro. Mais je pensais à l'histoire, l'histoire qu'on connaît, qui est européenne, avec une démocratie qui était installée par vote, c'est celle d'Hitler, où, effectivement, on a vu le résultat. Quoi. Les gens pensent dictature, les gens votaient pour ça, hein, à l'époque.
Oui, mais peut-être que quand on parle de démocratie autoritaire, du coup, Hitler a été voté, a été élu démocratiquement, mais ensuite il a renversé le régime. Alors que là, on a le sentiment qu'il y aurait cette antinomie qui se mettrait en place au sein de nos démocraties, qui se qualifie toujours comme étant démocratique, alors même que effectivement, elles ne le sont plus. D'où aussi peut-être le problème de l'absentéisme, ou de l'abstention au niveau des votes, c'est-à-dire, du coup, pourquoi voter, quoi ? Pourquoi continuer à voter si notre vote, effectivement, ne nous permet plus de participer démocratiquement au régime auquel on appartient ? Ouais. Oui ?
Oui, concernant la démocratie, tout à l'heure, vous interrogiez notamment le mode de scrutin, c'est ça ? Et en fait, tout ça, ça provient de... qu'on pourrait appeler des règles du jeu de la Constitution. En fait. Alors la Constitution, c'est plus très clair pour moi comment on peut la modifier. Il y a le Conseil constitutionnel, je ne me souviens plus exactement. Mais la Constitution, et par exemple, vous demandiez tout à l'heure un exemple de démocratie qui pourrait être un peu autoritaire. Quand on fait usage du 49-3 à l'Assemblée, quand le gouvernement fait usage du 49-3, il a été fait à la base, me semble-t-il, pour faire passer quand même une loi, pour faire passer le texte. Mais il y a une certaine mesure, faut pas l'employer. Il ne
faut pas le sortir à chaque fois, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est on peut ajouter ça au débat.
Oui, tout à fait.
Donc moi aussi, je voulais parler du 49-3. Et je ne sais pas si on peut parler d'autorité, mais j'ai l'impression qu'on peut parler de passage en force. Voilà, moi, j'ai, au niveau de mon contrat de travail, par exemple, j'ai signé pour 60 ans. Il y a quelques années, je me suis dit, bon, voilà, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent. Mes parents étaient boulangers, ils se sont tués au travail. Mais bon... j'ai pas envie de me tuer au travail. J'ai pas envie, évidemment, de gagner énormément d'argent comme eux ont gagné. Donc, j'ai signé pour un contrat de travail de 60 ans. Il y a quelques années, on m'a dit 62. Là, on me dit 64. Premier passage en force. Ça fait plus de 20 ans que je travaille. Dans mon travail, on m'a jamais demandé mon avis. Si j'avais peut-être des idées pour faire avancer les choses. Tout ce qui est programme, ça vient du haut. On nous impose des choses. Donc ça, c'est des petites remarques. Et puis, quelle était la dernière que je voulais... Ça m'a échappé. Donc le 49-3. Ah oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de référendum. Et d'autre part, j'ai aussi l'impression que lorsqu'on manifestait avant, il y avait au moins un changement de gouvernement. Mais là... c'est les mêmes qui restent.
Ça ne change plus rien. Alors, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que la logique de l'autoritarisme, on la ressent très, très fortement sur une structure verticale de pouvoir. Le pouvoir vient d'en haut, la décision vient d'en haut, et le bas, la base, en fait, on ne s'en préoccupe absolument pas. Alors que la logique de la démocratie à l'époque, c'était justement de renverser ce pouvoir hiérarchique, monarchique, autoritaire, hein, qui s'imposait pour mettre en place un pouvoir horizontal, basé sur l'égalité des gens, des citoyens entre eux, donc des individus, et donc casser cette logique de la domination. Donc c'est vrai du coup que dans une démocratie autoritaire, moi ce qui me semble intéressant, c'est qu'il n'y a peut-être pas que le politique qui revêt cette forme du coup d'autoritarisme, et que ça se retrouve en fait dans toutes les sphères de la société et qu'on le vit à tous les niveaux, politique, professionnel, social, enfin on subit beaucoup, hein, ce sentiment de ne pas être entendu, voilà, individuellement. au sein des structures, collectivement, lorsque même on manifeste, comme si effectivement, quoi qu'on fasse, peu importe quoi. Voilà, ne pas avoir de voix ou avoir une voix qui du coup tombe véritablement enfin, dans un néant quoi. Donc du coup où est la participation dans tous les sens du terme, politique, sociale, voilà, ouais. La construction en commun, ce qui est quand même le but d'une démocratie, hein. Construire un monde de vie en commun. Ouais. Oui.
Oui, pardon. En fait, moi, je voulais rajouter que c'est vrai que ce que vous indiquez, c'est ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'en fait, aux élections, il y a forcément un seul gagnant. Les élections présidentielles, les autres élections en découlent finalement, et on se retrouve avec un gagnant, donc il est en haut, et forcément, tout va redescendre. Il n'y a pas de contre-pouvoir réellement. Les médias en font partie peut-être du contre-pouvoir, mais voilà.
On devrait en faire partie.
Devrait, voilà. Ouais. Tout à fait. Mm-hmm. Après, on pourrait imaginer, on pourrait l'imaginer. Peut-être que ça existe dans certains pays. Enfin, il y a des pays qui ne fonctionnent pas avec un président qui a tous les pouvoirs, qui fonctionnent plutôt avec une assemblée dont le gouvernement est issu. Et ça donne moins de pouvoir à une seule personne. Donc en fait, je n'ai peut-être pas non plus toutes les références historiques, mais voilà, dans notre cas, on vote toujours pour une personne et tout le reste en découle. Donc finalement, on a recréé ce qui se passait avant. On avait un monarque, maintenant on a un président, peu importe si c'est un septennat, un quinquennat, mais finalement c'est lui qui a tous les pouvoirs et c'est peut-être même pire avec le quinquennat puisque toutes les assemblées sont élues pour la même durée sans contre-pouvoir et sans possibilité de... Donc il y a peut-être aussi cette partie-là, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le vote en lui-même ne légitimise pas la personne qui sera au pouvoir puisque ce vote pourra être... finalement, là, il est en entonnoir et tous les autres sont éliminés avant. Je voulais aussi rajouter une petite chose. J'ai un exemple qui me vient en tête par rapport à Singapour. Singapour, c'est une dictature autoritaire. Là, pour le coup, je pense, démocratie autoritaire. Et en fait, c'est intéressant, c'est que eux, ils ont verrouillé le système en faisant en sorte que il y a plusieurs partis, mais il y a un parti qui existe tout le temps, c'est celui qui est au pouvoir, et les autres partis ont 24 heures avant les élections pour exister. 24 heures. En 24 heures, ils doivent faire toute leur campagne électorale, distribuer tout ça. Ils ont 24 heures avant le vote. Donc, en fait, c'est toujours les mêmes qui gagnent, forcément, puisque la population n'a pas l'accès aux autres. Non, mais c'est... Voilà, c'est... c'est pas une démocratie. Il y a un vote. C'est ça, le problème. C'est... Voilà. Justement.
Donc, du coup, ça met entre parenthèses le problème du vote, un petit peu. Mais en tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est de revenir, du coup, sur les fondamentaux de la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, qu'est-ce que c'est ? C'est la séparation des pouvoirs. Voilà. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. Et chacun a son rôle à jouer. Et le rôle fondamental, logiquement, dans une démocratie, c'est quand même le législatif. C'est l'assemblée, ce sont les assemblées, c'est ceux pour qui on élit donc nos députés. Les sénateurs, c'est un petit peu différent de par la Constitution. Mais en tout cas, l'importance de la loi, elle est là. Ce sont eux qui font la loi qui font la loi pour le peuple et par le peuple. Donc la difficulté avec les nouvelles échéances électorales, c'est qu'effectivement, en fait, on donne une prérogative à l'exécutif. Et donc la logique, c'est si on élit telle personne au poste présidentiel, on demande en fait implicitement et de plus en plus explicitement à ce que le vote pour le législatif soit dans la lignée du vote de l'exécutif. Et donc, c'est sûr que là, il y a une subordination des pouvoirs, alors qu'il devrait y avoir des pouvoirs qui se réajustent, qui s'équilibrent par des logiques de contre-pouvoir, de vigilance et de méfiance effectuées par chaque pouvoir sur le pouvoir des autres. Donc, du coup, si ce qui prime, c'est l'exécutif, est-ce qu'on est effectivement toujours dans une structure démocratique ? Oui, il y avait...
Oui,
pardon, madame.
Oui. Moi, je voudrais ajouter deux choses. Les institutions font partie de la démocratie aussi. La démocratie ne peut pas exister sans les institutions de la société. Et les institutions dans les sociétés modernes sont très, comme vous avez dit, très hiérarchiques. Pardon. Et donc, ça n'est pas compatible avec la démocratie. Et l'autre point que je voulais faire, c'est les votes ne donnent pas l'illusion parce que c'est un transfert de pouvoir. Et je ne sais pas comment on dit en français. En espagnol, on dit « cheque en blanco ». C'est un chèque en blanc qu'on donne aux élus. Après, il ne répond plus aux personnes qui ont donné le vote. Et ça, ce n'est pas démocratique, parce que les élus, les présidents ou les autres personnes qui font partie du gouvernement, ils doivent donner des réponses aux populations. Ils doivent être sous les contrôles de la population, sinon la démocratie n'est pas réelle. Mais avec les institutions qu'on a aujourd'hui, ben, c'est pas possible, parce que les institutions des pays démocratiques, ils ressemblent plus à une usine où l'autorité est le moyen pour le fonctionnement qu'à une structure vraiment démocratique.
Ça a été la grande critique de la bureaucratie des démocraties contemporaines. Hein. Effectivement, pour fonctionner, il y a besoin d'une logique administrative très très lourde parce qu'on est dans des sociétés extrêmement complexes. Et du coup, là aussi, se pose la question de savoir qui décide effectivement. Parce que un haut fonctionnaire, par exemple, lui, il est nommé, et il va traiter les dossiers et il va rester en place. Un élu, lui, il sait qu'il est sur un siège éjectable. Donc, tous les 5 ans, il peut varier. Et le haut fonctionnaire, il le sait. Les institutions derrière, bureaucratiques, le savent. Donc, du coup, effectivement, où est le véritable pouvoir décisionnaire ? Qui décide véritablement ? Ça, c'est une véritable question. Et du coup, si moi, citoyen, j'ai à me retourner vers quelqu'un pour faire des demandes, pour mettre en place des projets, etc., lorsque je me retourne vers mes représentants, est-ce que je me retourne véritablement vers les gens qui ont le vrai pouvoir ou pas ? Et si j'ai des récriminations à faire, là aussi, si j'ai le sentiment de ne pas être entendu, vers qui puis-je me tourner, là encore, pour savoir qui est responsable de ce que je vis et de ce que je subis. Là aussi, c'est une réelle difficulté dans nos sociétés. Ouais.
Oui. Oui, moi, oui. Je pense que on parlait tout à l'heure du... Enfin, il y a plusieurs choses. Au niveau du vote, je pense que la problématique en France, c'est le fait que le président de la République soit élu au suffrage universel et voilà, tout seul, on va dire. Si on votait pour des partis, des représentants et après qu'ils désignaient un président dans leur rang, bon, ce serait sans doute, à mon avis, plus démocratique et plus représentatif. Après, en ce qui concerne le pouvoir, vous disiez tout à l'heure que le pouvoir s'exerce d'en haut et que ça ne va pas. Je pense que c'est le propre du pouvoir de s'exercer d'en haut, sauf que dans une démocratie, il faut que des gens gouvernent, ils sont élus pour gouverner, il faut qu'ils prennent des décisions, qu'ils actent des choses. Bon, ils sont là pour ça, c'est le pouvoir qu'on leur délègue en fait, et ce pouvoir c'est le nôtre finalement. Mais je pense que le problème vient du fait que les gens qui... On a la sensation, tous, chacun dans son individualité et même dans ses corporations, tout le monde est mécontent à un moment donné. On a la sensation que les gens qui décident, donc ça descend d'en haut, parce que ça descend sans tenir compte de ce que pensent les autres. Donc, je crois qu'il y a une perte de vue totale de ce qu'est l'intérêt général. Et on ne sait plus qui définit ce qu'est l'intérêt général. Et donc, chacun, après, défend son intérêt particulier. Les lobbies, les infirmières, les enseignants, n'importe qui, peu importe, sans hiérarchisation des choses. Et chacun, après, veut défendre ses intérêts. On n'est plus que sur des histoires d'intérêts, qui sont souvent des intérêts financiers, économiques, pécuniers. Mais on perd de vue l'intérêt général d'une société, je pense, qui est quand même un bien-être général, une cohabitation, un lien social. Et je pense qu'actuellement, le ressenti que j'ai, c'est qu'on ne fait plus société, en fait. On est juxtaposés comme ça, les uns avec les autres. La preuve, on n'est que dans des conflits, les gens sont très agressifs les uns avec les autres. Il n'y a plus cette sensation qu'ensemble, on est fait pour s'entendre et de temps en temps, ben, renoncer à un certain nombre de choses pour que l'équilibre se fasse. Et je pense que les décisions sont prises comme ça. On fait plaisir à quelqu'un, on va donner un chèque aux uns, placer aux autres. Ceux-là, ils ne l'ont pas. Et ça divise de plus en plus, en fait. Il n'y a plus d'intérêt général qui fait qu'on est dans une société.
Et qui créerait une cohésion de groupe.
Parlez bien le micro devant, comme ça. Parce que là, on n'entend pas beaucoup. Vous voyez, c'est toute la différence, hein, là et là. Donc, c'est un peu plus fatigant pour le bras. Mais on travaille le cerveau et les muscles aussi, finalement.
Bon, bah, je vais essayer de bien tenir le micro, alors. On parle d'un idéal, une démocratie, le pouvoir du peuple, et on imagine un peuple uni porté vers le même objectif. Et on s'imagine aussi que ça a existé un jour, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup pire qu'auparavant, où tout le monde voulait la même chose. Ça n'a jamais existé, hein, en vérité. Et donc, on essaye de s'approcher de cet idéal qui est, par définition, inatteignable. Et en même temps, on va chercher une représentation, une incarnation, parce qu'on ne peut pas prendre la parole à 70 millions. Donc, il y a une personne qu'on met en tête pour faire le truc. Et cette personne qui va se désigner, qui va faire campagne, etc., déjà, c'est quelqu'un qui a une psychologie très particulière, quoi. On a des psychopathes qui se succèdent à la tête de l'État. Et ils sont très forts pour faire des campagnes, ils sont beaucoup moins forts pour gouverner. On l'a vu quand même depuis assez longtemps. Et pour autant, on cherche toujours, le peuple, je crois que c'est de la psychologie ou peut-être de la psychanalyse, on cherche un père, on cherche une image d'une autorité bienveillante qui arriverait à faire le consensus, en notre nom, mais avec quand même la capacité de nous imposer des choses, parce que c'est pour notre bien. Donc on a tout un tas d'ambivalences comme ça qui nous travaillent. Et alors vous avez cité les trois pouvoirs, puisqu'on a parlé des institutions, donc le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qui doivent intervenir dans cet ordre-là, en principe. Et vous avez omis l'information, quatrième pouvoir, qui est un pouvoir très, très... très très important, parce que c'est comme ça qu'on manipule l'opinion, c'est comme ça qu'on influence, c'est comme ça qu'on fait passer des bonnes idées comme la prudence sur la route, ou des très mauvaises, et là on a des listes longues comme le bras. Et en fait, la démocratie, ce serait de... C'est un truc pour éviter la loi de l'injable, la loi du plus fort, on est d'accord. Donc on essaye que un homme, une voix, etc., qu'on soit tous à égalité. Mais les médias là-dedans, aujourd'hui, ils sont où? Ils font la loi du plus fort. C'est les plus forts, économiquement, évidemment, qui ont acheté les grands médias et qui influencent l'opinion, etc. Et donc là, le jeu est biaisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de capacité d'expression démocratique, puisqu'il y a quelques personnes qui détiennent les médias et qui donnent les consignes à suivre à Hanouna ou à je ne sais pas qui pour qu'ils disent la bonne chose au bon moment. Et donc là, on a un jeu qui est complètement biaisé, et la démocratie ne peut pas marcher si on n'a pas des médias indépendants. Et là, on a un gros, gros problème en ce moment. Alors, lisez Ciné Mensuel, lisez regardez le Média Oblast, il y a plein de façons de s'informer alternatives, mais tant qu'on reste dans le mainstream, dans le TF1 pour Bouygues, France 2 machin pour le gouvernement, et puis toute la famille Bolloré, toute la famille Arnaud, etc. Et là, on n'a plus de capacité d'être des bons citoyens. Donc là, il y a un gros, gros problème. Et en dehors de donner des sous à ceux qui sont indépendants, qui ne vivent pas de la pub et qui ne sont pas sponsorisés par un milliardaire, il faut y aller, quoi. Enfin, moi, je donne de l'argent aux médias avant d'en donner à Médecins Sans Frontières, par exemple.
Oui, oui. Ouais. Alors, en même temps, j'ai envie de dire, il y a aussi aujourd'hui Internet. Parce que ce problème des médias, il a toujours été, enfin, avec des périodes où la censure était extrêmement importante. Aujourd'hui, il y a Internet et il me semble qu'on en revient quand même à l'idée fondamentale de la démocratie. C'est-à-dire, il n'y a de démocratie que là où il y a des citoyens. Et on ne naît pas citoyen, en fait, on le devient, d'où l'importance de l'éducation, d'où l'importance d'apprendre à penser par soi-même. Et dans l'apprentissage de la pensée personnelle, il me semble qu'il y a savoir décrypter ce qu'il en est de l'information. Et déjà, moi, ce que je remarque, c'est que tout ce que nous disons au niveau de nos grands médias nationaux, nous savons d'où ils parlent. Nous savons qui nous parle. Donc c'est quand même bien nous qui appuyons sur les boutons de la télécommande pour mettre la une, la deux ou l'autre. Il y a je crois que là aussi, la capacité à aller vérifier nos informations, la capacité à aller chercher ailleurs, parce que de l'information, on en a, et on en a beaucoup. On a la presse française, on a la presse internationale, on a Internet, on a toutes les possibilités alternatives qui nous sont offertes. Donc on est très informés, je crois. Le tout, c'est aussi de savoir si nous voulons être informés, si nous voulons savoir, si nous voulons aller chercher l'information et en faire quelque chose pour bâtir un jugement solide et exercer véritablement notre citoyenneté. Parce que peut-être que la citoyenneté, ce n'est pas simplement mettre un bulletin de vote une fois tous les 5 ans. Voilà. La citoyenneté, elle s'exerce aussi au quotidien. Et si effectivement la démocratie, c'est un pouvoir qui se pense à l'horizontale, elle s'exerce aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire créer la démocratie, elle n'est peut-être pas donnée, elle est peut-être à créer tous les jours dans des logiques de participation, dans des logiques associatives, dans le travail que nous faisons actuellement. C'est-à-dire, effectivement, on veut penser, mais comment penser? Que doit-on penser? Comment doit-on se comporter ou se tenir? Quelles actions entreprendre? Quelles actions ne pas entreprendre? Doit-on agir à tel moment ou au contraire s'abstenir? Enfin, la citoyenneté, c'est déjà la participation à l'intérêt général. Voilà, c'est ça, oui. Parce que effectivement, si je manifeste exclusivement pour mon propre pouvoir d'achat, est-ce que ma capacité à manifester est toujours une capacité citoyenne? Du coup, voilà. Hein. Est-ce que la démocratie n'existe pas que là où il y a des citoyens? C'est pas la démocratie qui fait le citoyen. C'est le citoyen qui fait la démocratie. S'il n'y a plus de citoyens, on aura beau avoir toutes les institutions et toutes les... j'ai envie de dire les... ah mince, le terme m'échappe. Sur les pères de la Constitution. On aura beau avoir, oui, toutes les constitutions possibles et inimaginables, remarquablement bien faites, il n'empêche que ce ne sont que des bouts de papier. Ce qui fait vivre ces bouts de papier, c'est la capacité qu'on a de se comporter en citoyen, en citoyenne. D'où la définition.
Chacun va devoir renoncer à quelque chose parce qu'on ne vient pas de défendre juste ce qu'il nous faut pour nous.
Ouais.
Oui.
Pardon.
Oui.
Moi, je pense.
C'est bon.
Alors, vous avez parlé de nos grands fonctionnaires. Il faut savoir qu'on les dirigeait à notre époque par McKinsey. C'est des Américains. On n'est qu'une colonie américaine, dirigée en plus par des banquiers, des lobbies. Donc, on n'est qu'un petit État.
Pouvoir de la finance.
Le pouvoir de la finance. Toutes nos lois sont faites par des cabinets américains. Voilà, nos fonctionnaires, ils dorment, on les paye grassement, et puis c'est tout.
Donc.
Voilà. Mais c'est la vérité.
Alors, l'idée que la démocratie serait l'union d'individus qui recherchent un pouvoir bienveillant, le pouvoir du père, et donc où tout se passerait bien et où on pourrait dormir tranquille. La chose, elle n'est peut-être pas aussi sûre que ça. C'est-à-dire, si la démocratie, elle devient autoritaire, c'est peut-être parce qu'on a oublié que la démocratie, au départ, ce sont des conflits d'intérêts. Et ce sont des gens qui ont des points de vue divergents. Et ce sont des luttes. Ce sont des luttes à mener parce que, oui, s'il y en a qui dorment, bah, peut-être qu'il faut aller les réveiller, quoi. Voilà. Donc...
Et c'est à cause du citoyen qui ne bouge pas que c'est comme ça.
Et voilà.
Vous avez dit à l'instant.
Voilà.
Parce que si on était tous d'accord, on l'arrête de travailler pendant 2 jours dans toute la France, je peux vous dire, ça change.
Deux jours. C'est une pression.
Deux jours. Il n'y a pas besoin. Tout le monde se dit, on l'arrête.
Voilà. Et c'est là où
vous voyez là ce qu'on fait. Il y en a un qui fait rêve, on lui donne un petit bout, une petite carotte. Bah, comme dans une usine, dans une société. Hein. Des petits bouts de carotte, on rapièce. Et puis il est content avec sa petite carotte. Et puis voilà, au suivant. Il n'y a jamais rien qui se fait.
Donc,
avec l'argent, on fait tout.
Si on accepte que tout se fasse avec de l'argent.
On est d'accord.
Si, voilà. Ouais, c'est
mais avec l'argent, vous achetez tout. Notre président, il vient de chez
Rothschild. Ouais.
C'est pas par hasard qu'il y a un banquier, il est là. Voilà, c'est tout.
On a 5 personnes au moins qui attendent. On essaye de faire au mieux. Oui, mais il y en a 3 avant vous. Et notamment un nouveau parlant, je crois.
Le micro est peut-être fermé. Oui.
Ah oui, quand c'est vert, c'est que ça marche.
Voilà.
Oui, j'ai déjà pris la parole, excusez-moi, pour ceux qui attendent. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la communication, c'est un champ de compétences qui va de l'information à la propagande, c'est très très large et c'est très simple. Enfin, c'était un peu mon métier pendant un temps, mais moi je suis. Vous parliez de faire des citoyens et que c'était les citoyens qui faisaient la démocratie et pas la démocratie qui faisait les citoyens. Moi je suis un très fervent partisan d'enseigner la communication dès l'école primaire, dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que c'est qu'un émetteur, un récepteur, un cadre de référence, une intention? Des parasites dans la communication, etc. Il y a tout un tas de petits jeux qu'on peut faire avec des gamins et qui comprennent, et qui éveillent et qui disent, tiens, lui, il me dit ça, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il veut obtenir de moi au total? Et ça, c'est extrêmement subversif. Si on se met à faire ça dans les écoles primaires, ça va grogner en haut. Hein. Mais il faut, à mon avis, il faudrait le faire.
Et c'est là où l'instituteur a son rôle de citoyen ou citoyenne à jouer, bien sûr. On essaye.
Oui.
Oui, je voulais revenir sur le quatrième pouvoir et son importance. La philosophe Simone Weil était très exigeante vis-à-vis de la presse. Dans son chapitre sur la vérité, là, elle indique que la vérité est d'un besoin absolu et elle en vient donc au rôle des journalistes et à leur responsabilité. Elle considère peut-être que nous sommes un certain nombre à pouvoir réfléchir, à aller chercher l'information, mais comme elle disait quelque chose comme un ouvrier qui rentre le soir complètement abruti par le boulot, nous devons lui donner à manger du bon et pas du mauvais, à savoir le journal qu'il ouvrait devait contenir uniquement des vérités, non pas des mensonges. Et elle allait plus loin, elle considérait que toute journaliste qui omettait de dire la vérité volontairement, ça devait être considéré comme un crime. Et donc, elle était pour la mise en place d'un tribunal constitué de gens tirés au sort, mais suffisamment éduqués pour pouvoir prendre du recul par rapport aux faits à juger. Un tribunal pouvant les condamner jusqu'aux travaux forcés, ces journalistes qui travaillaient souvent pour leur propre profit, pour leur boîte, Arnaud à l'époque n'existait pas, ou l'autre. Et non pas pour l'intérêt général et pour la vérité.
Mais je pense qu'on pourrait peut-être étendre ça à d'autres fonctions que celles de journaliste. C'est-à-dire, après tout, si mon représentant ne fait pas son job, est-ce qu'il peut, après ses 5 ans, simplement rentrer chez lui alors que l'intérêt général n'a pas été réalisé, ou ce pourquoi il a été élu n'a pas été réalisé? Voilà. Rendre compte, rendre raison, effectivement, de ses actes.
Bon. Ils ont subi une crise tellement énorme.
Ça a changé.
Moi, je voudrais commencer d'abord par rajouter un petit point et revenir sur le fait que on devient citoyen. Pour moi, c'est important parce que si on devient citoyen, c'est que c'est pas naturel. Et je rejoins ce que monsieur a dit tout à l'heure par rapport à la communication et j'irai même plus loin dans le sens où on a besoin de former les futurs parents de demain à apprendre à élever leurs enfants. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On considère que les enfants, ils sont éduqués par l'école, mais on apprend, on n'a pas le temps. En fait, les étudiants, les enseignants n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Ils font beaucoup de transmission de savoir, mais de manière, je dirais, factuelle, sans vraiment prendre le temps de s'occuper de transmettre des notions, d'apprendre un savoir, de prendre du recul. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps à naître dans le cerveau d'un humain. Et la question de l'apprentissage des parents envers leurs enfants, c'est fondamental. Ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est que aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Est-ce que on pourrait se demander, un téléphone portable, ça éduque les enfants? Je crois pas. Donc, c'est pas en donnant un téléphone qu'on va apprendre à agir par leurs enfants ne vont pas être éduqués avec un téléphone. Et ensuite, le dernier point que je voulais soulever, c'était la question du pouvoir, et notamment lorsqu'on est dans la démocratie ou dans l'autoritarisme, enfin surtout la démocratie du coup. Aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, ils ont un vice-président. C'est quelque chose qu'avec un peu de sens, on pourrait penser que c'est pas mal, parce que le vice-président, il est élu par l'opposition. Et donc, si la constitution d'un gouvernement est construite avec deux personnes qui ont des avis plus ou moins opposés, alors à partir de ce moment-là, on peut arriver à quelque chose qui est construit et équilibré, quoi. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Mais d'un autre côté, ça pose la question de à quelle vitesse on avance et comment on se développe. Parce que avec ça, est-ce qu'on va arriver à avancer suffisamment et que ça soit à la hauteur de l'électeur? En termes d'exigence, nous, le peuple, on a envie qu'on progresse, qu'on soulève des points qui sont importants. Et si on n'arrive pas à voir, si on a trop d'opposition et si à l'Assemblée nationale il y a des obstructions et il y a 20 000 amendements de part d'un groupe ou un autre, à un moment on ne peut pas avancer, quoi. Je ne dis pas qu'il y a un pour ou un contre, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il faut arriver à avoir un peu d'équilibre, un peu de nuance. C'est Étienne Klein, je crois, qui parlait de ça, de la nuance, et c'est important. Et ça permet d'avoir du recul et de voir la vie, quelque chose sur du plus long terme. Je pense qu'il faut vraiment soulever des questions qui sont fondamentales et revenir à l'essentiel, et revenir sur la question de quel est le besoin de l'humanité, à la fois sur l'ensemble de la société, mais à la fois sur chaque individu. Quel est le besoin, quel est son propre besoin? Et ça peut aller sur des questions diverses et variées, technologiques, humanitaires, sociales, écologiques, qu'il faudra se poser un jour ou l'autre, et pour l'instant, c'est absent du débat, quoi.
Moi, je reviens sur la notion de citoyenneté. Là, il m'a venu une idée quand vous disiez ça, tout le monde dans le même bateau, et en fait, je pense qu'il y a tellement de brassages au niveau de la planète que je ne sais pas si on est tous citoyens sur le même niveau. Donc, il y a des brassages culturels qui arrivent, qui ne sont pas dans la démocratie ou qui ont une autre vision. Ces gens-là, ils deviennent, quand ils sont sur le territoire, ils peuvent être français ou pas français, on ne vote pas. Et il y a un choc des cultures qui fait que les courants de pensée ne sont pas dans le même courant. On l'a, depuis le début, on dit oui, citoyenneté, tout le monde dans le même bateau, on a tous envie, mais non, en fait. On se rend compte qu'on n'est pas tous dans le même bateau pour avoir ces idées communes.
C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas être citoyen, c'est ça?
Tout le monde veut bien être citoyen pour en tirer des bénéfices.
Oui.
Et donc, le droit du sol en France, voilà, on est en France, on est citoyen, et on a un droit de vote, on va voter ou pas, mais il y a des... L'éducation par l'école, qui c'est pas forcément son rôle. On a fait partie, mais c'est pas son rôle. Les parents de ceux qui, effectivement, donnent cette idée de citoyenneté, est-ce qu'elle est orientée dans le bon sens du collectif primaire de la culture où ils sont abordés, hein.
C'est-à-dire en vue de l'intérêt général.
Ben oui.
Qu'on les amène justement à penser selon l'intérêt général.
Il y a des sociétés qui sont plus patriarcales, effectivement, donc pas du tout le même courant de pensée, et donc sur plus libertaire. On voit entre, effectivement, les pays du Nord où ça vote en ce moment extrême droite, les pays du Sud ou du Maghreb et tout ça. Il y a des démocraties, mais elles n'ont pas le même courant culturel. Mmh. Et ça, si on n'est pas en accord, on ne va pas y arriver. Voilà. Il faut que tout le monde ait donc par l'éducation parentale, qui irait dans le sens d'un pays où on est accueilli. Je vois le Canada, effectivement, il y a tellement de difficultés à devenir citoyen canadien que la barrière d'entrée, déjà, permet d'avoir une notion du comment on doit gérer le pays depuis une façon assez ancestrale.
Ils ont une habitude de la logique migratoire, les Canadiens. Donc, ils fonctionnent beaucoup sur une logique communautaire aussi.
Là, parce que je repense à notre chinois qui n'est pas là, effectivement, s'il y a un afflux qui vient de ces gens qui viennent en France, elle a bon dos, parce qu'elle a mis des idées la dernière fois qui étaient existentielles. Comment faire tourner cette culture pour dire que notre démocratie est beaucoup plus laxiste que la leur, sans penser qu'effectivement c'est un mal pour eux. Voilà. Je ne tire pas boulet au cheval, il y a plein d'autres cultures qui viennent souvent patriarcales.
Là, c'est Hong Kong dont la démocratie est en train de chuter fortement. Le courant démocratique, visiblement, est en train d'être laminé sur Hong Kong. Oui.
Alors, pour aller très vite, depuis le départ pratiquement de nos conversations, on parle du citoyen. Et moi, il me semble, pour répondre à toutes ces interrogations, qu'il faudrait réformer l'école. On en vient effectivement à tout ce qui a été dit tout à l'heure, communication, etc. Dès le plus jeune âge, on peut tout à fait réformer aussi sûrement les programmes et faire en sorte que les enfants apprennent à mieux vivre ensemble, c'est-à-dire avoir l'autre avec beaucoup de tolérance, et puis savoir aussi, comme a dit monsieur, introduire des possibilités, des jeux de communication, etc. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Et ça permettrait progressivement, au long de toute la scolarité, à tout le monde de devenir, d'apprendre, à essayer, de comprendre par soi-même. Parce qu'on voit bien que les enfants, même quand ils sont plus petits, on peut effectivement les amener par des jeux, etc., à réfléchir aussi à leur niveau. Et progressivement, comme ça permettrait aussi, au niveau de l'éducation, c'est sûr, comme a dit monsieur, que moi j'y crois, j'y crois très fermement, c'est assez évident. Je m'occupe un peu de jeunes enfants et je pense que c'est possible. Ils savent accepter les différences, ils savent accepter. Je vois madame qui dit non, mais si, moi je vois dans différents milieux que c'est possible. Voilà. Bon, j'arrête là.
Oui. Je reprends les sujets de l'école. Moi, j'avais suggéré un sujet concernant les écoles au début, précisément parce que j'ai parlé de harcèlement à l'école. Et moi, je pense que pour devenir citoyen, on doit commencer petit avec les enfants, mais c'est pas seulement par un programme pour faire des études. Moi, je suis maman et peut-être je me trompe, mais mon expérience est que mes enfants, ils apprennent plus avec l'exemple qu'avec les paroles. Les enfants, ils apprennent avec l'exemple. Et je me pose la question, est-ce que l'école est une institution démocratique? Est-ce qu'ils apprennent l'exemple d'être citoyen, tolérant, la démocratie à l'école? Et je n'arrête pas là. La famille. Est-ce que les structures de la famille
où il prend le plus, est-ce que c'est démocratique? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce que ces demandes sont prises sérieusement? Est-ce qu'ils sont respectés dans la famille? Et est-ce que les autres membres de la famille sont respectés, sont écoutés dans la famille? Donc, je le vois plus profond. La réforme doit être plus profonde. Mais totale.
Si je définis la démocratie comme le respect de la diversité, je me trouve en difficulté avec la notion de bien commun, qui semble définir une certaine unité. Et il me semble que dans ce que l'on peut conseiller ou en tout cas préconiser pour une vie démocratique, on fonctionne sur un modèle. Et chacun a son modèle. Et imposer un modèle est contraire à la vie démocratique. Il me semble que c'est toutes ces difficultés qui sont à résoudre. Pratiquement, je crois que ça ne peut pas s'aborder sur un plan général où on brasse les mythes, les hypothèses, les utopies. Mais par contre, traiter un problème concret, ça suppose qu'on définisse les objectifs de l'action à mener, qu'on repère les moyens dont on dispose, qu'on mette ces moyens en œuvre et qu'on mesure les résultats, et qu'on contrôle où en est-on par rapport à l'objectif défini. Donc, autrement dit, on peut être divers dans nos perceptions, mais arriver à construire des accords sur des actions concrètes de ce type. La seule chose, me semble, enfin, la chose essentielle et que je vois à peu près absente partout, c'est la fonction de contrôle. Autrement dit, par rapport à ce qui est dit, contrôle-t-on que c'est ce qui est fait ? Et là, me semble, on rencontre aussi un gros problème de fonctionnement démocratique.
Oui, madame.
Honneur aux dames.
Merci. Merci. Moi, je voulais revenir sur le rôle de l'éducation. Alors, l'éducation a beaucoup évolué au cours des temps et je pense qu'elle va continuer à évoluer avec l'arrivée des neurosciences, qui c'est vraiment une révolution avec l'étude sur le cerveau. Et donc, on se rend compte que maintenant, Laurent en a parlé tout à l'heure, le quotient émotionnel est un élément primordial à prendre en compte dans l'éducation. Et donc les neurosciences sont à l'appui de ça. Le fait de laisser l'enfant exprimer ses émotions, d'être à son écoute, hein, de pouvoir le comprendre, ça ne veut pas dire être trop tolérant ou trop bien. C'est simplement de la bienveillance, mais tout en lui laissant un cadre, hein, très défini. Mais on est à l'écoute et à partir de là, on fait l'empathie, la bienveillance. Il est prouvé au niveau du cerveau, c'est l'ocytocine qui est sécrétée et c'est contagieux. Donc si un adulte est bienveillant, si un adulte a de l'empathie, les enfants auront aussi de l'empathie. Et donc ça créera un monde progressivement, j'espère, de personnes plus à l'écoute les unes des autres et qui peuvent arriver à aller dans le sens d'un bien commun tout en conservant chacun une vision qui peut être très différente de son voisin, mais avec l'idée d'un bien commun ou
d'un objectif commun à poursuivre. Voilà.
Alors, il ne faut pas... on brasse là des bons sentiments, des bonnes idées en disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Il y a un pouvoir qui donne des directions, et ces directions, est-ce qu'elles sont bienveillantes aujourd'hui? Est-ce que les gens qui ont le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir économique, est-ce qu'ils nous veulent du bien? Il n'y a que dans Walt Disney où les méchants, ils ont des têtes de méchants. Les méchants d'aujourd'hui peuvent avoir des beaux yeux bleus, être très très polis et un beau costume. Donc voilà, il ne faut pas attendre que tout ce qu'on appelle de nos voeux arrive par en haut. Ça n'arrivera pas par en haut. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vouloir le pouvoir, pour se dire c'est moi qui vais diriger 70 millions de personnes ou plus selon les pays, et c'est moi qui vais dire l'âge de la retraite, ou c'est moi qui, etc., il faut être fou, quoi. Il faut avoir un pet au casque. Hein, donc ces gens-là, si on prend un des meilleurs programmes politiques qui ait jamais été écrit, celui du Conseil national de la Résistance, je suis incapable de dire s'il a été écrit par un tel, parce que c'est un collectif qui l'a écrit. Hein, et donc, dès qu'on personnalise le pouvoir, on tombe dans des... Enfin, le pouvoir, je ne sais plus qui a dit, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Ça se vérifie tout le temps. Hein, et il ne faut pas attendre que ces gens-là aillent dans le sens de l'éducation, dans le sens de former les citoyens. Un peuple ignorant, c'est un peuple docile. Hein, donc on n'a pas du tout à attendre de ces gens-là. Ici, on est une petite assemblée de, on va dire, un peu élitiste, de gens qui prennent le temps de réfléchir, de gens qui appuient sur le bon bouton de la télécommande, voire qui n'allument pas la télé, ce qui est encore mieux. Mais c'est pas le cas de 99% de la population française. On n'est pas du tout représentatif ici du peuple français, donc il faut en être conscient. Mais pour autant, tous les changements dans tous les pays sont toujours partis d'une minorité. Ça n'a jamais été la majorité. Monsieur disait, et c'était très bien, c'est une louable intention, disant que si on s'arrêtait tous pendant deux jours de travailler, ça mettrait un sacré bordel et on serait entendu, sauf que ça n'arrivera pas, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Toujours la Révolution française, c'était très peu de gens, par exemple. Hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc que ces gens-là se mobilisent et disent et parlent autour d'eux et agissent, etc., très bien, mais ça ne viendra ni de Rome ni de la masse. Donc la démocratie, c'est aussi bizarrement que ce soit, c'est pas la masse qui la fabrique.
Alors, c'est pour ça qu'on pourrait peut-être faire une distinction entre masse et peuple. Voilà, je pense que là, il y aurait une chose. Le peuple, on pourrait l'entendre justement comme un ensemble d'individus éclairés, alors que la masse, justement, elle est menée par... est-ce que c'est son ignorance? Est-ce que c'est, si on veut rester en termes psychanalytiques, ses pulsions aussi qui l'amènent? Enfin, la masse, c'est le gros ventre mou, voilà, dont parlait Platon, là. Mais du coup, la seule chose qui me gêne, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles Platon dit « la démocratie, c'est peut-être le pire des régimes politiques avant la tyrannie ». Parce que, justement, ça n'est que de la masse. Et je crois que répondre à Platon, c'est lui dire « Non, l'erreur, là, qui est commise, c'est que c'est pas de la masse, c'est un peuple. » Et ça, je crois que c'est ça qui fait de la démocratie une réalité, quoi. Ça existe, la démocratie, et ça n'existe pas comme le règne de la luxure. Mais voilà, voilà.
On passe de la masse au peuple par l'éducation.
Et on passe de la masse au peuple par l'éducation.
Mais les gens qui ont le pouvoir ont-ils intérêt à cette éducation? Parce que c'est ça la vraie question.
Mais c'est le peuple a-t-il intérêt à l'éducation?
Voilà. Je voulais juste rajouter.
La Grèce n'était pas très démocratique.
Ah bah non. Puis ils l'ont démontré après. Oui, pardon.
Pardon, je voulais rajouter quelque chose. Par rapport au... On a parlé des trois pouvoirs de l'État, on a parlé aussi des médias, et il y a quand même un pouvoir qui... Alors, je pense qu'il a toujours existé, mais il est de plus en plus visible grâce peut-être aux médias, à Internet aussi, c'est le pouvoir des associations et des collectifs. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de collectifs qui se forment autour... Alors, ça ne va pas être forcément pour défendre une idée... de démocratie, mais pour défendre un aspect de la démocratie, un accès à quelque chose. On a eu tout ce qui était accès au logement, il y a eu quand même un gros un collectif qui s'est formé pour cette loi d'accès au logement. Après, bon, on voit ce que ça a donné, c'est peut-être pas forcément ce qui était espéré au début, mais ça, il y a des avancées comme ça qui sont faites par des collectifs sur certains aspects. Donc ça joue aussi, ça met en avant la démocratie, le fait que ce soit un groupe de citoyens qui demande une avancée particulière et à un moment, par un jeu de pouvoir entre différentes... entre les médias qui vont remonter, qui vont mettre en avant ces choses-là, Internet qui va donner accès à tout le monde, et puis ça peut arriver jusqu'à un pouvoir qui va le faire avancer. Donc il faut aussi voir, enfin je pense que c'est intéressant de ramener ça dans le giron de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a les institutions officielles, il y a les médias qui font contre-pouvoir, mais il y a aussi des collectifs, des associations et qui font émerger des idées et des solutions à des problèmes qui sont mis en avant plus facilement avec les médias et Internet aujourd'hui.
Oui, l'avantage des institutions, des associations, c'est que quand elles œuvrent, c'est du concret. Là, on voit que les questions démocratiques, on peut pas prendre tous les problèmes, on en prend un à bras le corps et on se bat pour. Mais ce qui est bien aussi, c'est que du coup, les médias sont aussi à leur service. Et donc, c'est vrai que des fois, on peut dire que les médias peuvent nous manipuler, mais d'un autre côté, on peut aussi utiliser les médias. C'est quand même un levier extrêmement puissant d'opinion publique. Hein. Et quand l'opinion publique est mobilisée, on se rend compte qu'elle a une force considérable, cette opinion publique, pour faire des fois plier le gouvernement.
Oui. Je voulais juste rajouter un petit truc, c'est qu'entre le bouton 6 et 8, il y a le bouton 7, et le bouton 7, Arte, où il y a des débats le dimanche soir notamment, qui sont très intéressants.
Non, mais c'est vrai, pour revenir à Simone Veil, il y a des journalistes qui font un boulot remarquable, et il faut quand même le dire. Ouais. Sur le terrain, ils y vont, et au risque de leur vie aussi. Voilà, des fois nous sommes informés au risque de leur vie. Parfois.
J'avais un clin d'œil, moi, pendant que j'y pense, là, c'est les bonbons d'un professeur qui raconte une histoire drôle pour justement les différentes démocraties. C'est quelqu'un qui vient dans un restaurant, et il y a le cuistot, et il prépare des escargots. Et il a deux plats d'escargots, deux saladiers d'escargots, et il y en a un qui a couvercle et l'autre non. Il dit, mais comment ça se fait qu'il y a des couvercles sur le premier et pas le deuxième? Il dit, le premier, c'est escargot anglais. Il dit, on met un couvercle, sinon ils s'en vont. Et le deuxième, pourquoi il n'y a pas de couvercle? C'est des escargots français, et le premier qui se barre, il est rattrapé par les autres.
Oui, en fait, dans notre chère démocratie, on entend beaucoup parler de corruption, trafic d'influence, conflit d'intérêts, malversation, évasion fiscale. Hélas, la liste n'est pas exhaustive. Donc, dans ce monde merveilleux, pourrons-nous dire, c'est un monde à part, en fait, pour moi. C'est comme une république bananière, en fait. Le chef de l'État est à la tête d'une république bananière, entouré de ses amis oligarques. Et, en fait, tous ces gens-là, ils sont à milieu de savoir ce que nous éprouvons. En fait.
Est-ce qu'on pourrait définir une république bananière, s'il vous plaît?
Alors, une république bananière, pour moi, c'est en fait... comment je pourrais dire, il n'y a que leurs intérêts qui sont supérieurs aux autres. Et voilà. C'est un monde d'argent, c'est un monde d'arrangements entre amis, des montres par-ci, par-là, des croisières, etc. Puis nous, je veux dire, nous ramons,
la galère.
Quelquefois contre-courant, et puis voilà.
Ouais, exactement. Donc il y aurait une distance incroyable, en fait, entre le pouvoir, les hommes de pouvoir, et puis pour le coup, le peuple, entre guillemets, quoi. Hein, la population, hein, ça serait même mieux de dire la population, du coup.
Et je voudrais juste rajouter, si vous voulez bien, hier, j'ai regardé une émission sur la 3. Je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une émission... Bon, certes, elle est reliée à l'État, mais toujours est-il qu'il y a eu une émission sur Plogoff, en fait. Tous ces gens qui se sont manifestés, qui sont vraiment mobilisés contre le nucléaire. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Je veux dire, du plus jeune au plus âgé, ils étaient tous vraiment très soudés et ils sont arrivés
Et ouais, c'est ça le plus important, ouais. L'engagement. L'engagement, c'est un terme qu'on n'a pas encore utilisé. Ouais. Engagement et détermination, oui. Je rajouterais citoyenne.
Oui. Mais juste une petite précision, parce que moi, je suis de Honduras, et c'est le pays où la phrase République bananière s'origine. Donc, je vais vous donner la définition d'origine. L'origine d'une République bananière, ben, c'est les États-Unis qui plantaient les bananes chez nous, et les entreprises bananières contrôlaient le gouvernement. Et ils n'avaient pas aucune. Encore, il n'y a pas aucune indépendance du gouvernement par rapport aux États-Unis. Et c'est ça une république bananière. Et les pays européens aujourd'hui, bah, ils sont des républiques bananières, à mon avis. Les États-Unis, ils contrôlent. C'est tout.
Nous ne plus acheter de bananes. Elles sont toutes pourries, y compris Martinique et Guadeloupe.
Mmh. Oui, je me demande si paradoxalement, vous écoutez, on ne pourrait pas penser que la démocratie, ça serait une véritable démocratie, ça ne passerait pas par la suppression du vote. J'entends pas, c'est pas un paradoxe. Hein. Et plutôt par un mode, et c'était le cas chez les Grecs, par un mode de désignation au tirage au sort. Et si s'il y avait une partie ou la totalité des assemblées qui étaient tirées au sort, avec un renouvellement régulier des personnes tirées au sort, des représentants, on aurait peut-être un certain nombre de garde-fous contre tout ce qu'on a évoqué. Des collusions d'intérêts, des compromissions, la soif du pouvoir, ce pouvoir qui rend absolument fou. J'entends par là la Convention citoyenne pour le climat. Elle a été constituée d'une centaine de citoyens et de citoyennes tirés au sort, qui n'étaient pas experts en la matière, parce qu'on a l'impression que pour être élu, il faut être expert, il faut être compétent. Et dès lors qu'ils ont été informés par des personnes qui maîtrisent un certain nombre de connaissances, ces citoyens tirés au sort, vous et moi, ils ont réussi à proposer des solutions qui étaient tout à fait raisonnables et peut-être assez efficaces. Alors, elles n'ont pas été entendues par celles et ceux qui n'ont pas été tirés au sort, mais élus. Bon, voilà, mais il n'empêche qu'on a de nouveau une nouvelle commission sur le débat sur la fin de vie. Actuellement, hein. Pareil, une centaine de personnes qui se réunissent pour savoir si on doit remettre en partie en cause la loi Claeys-Leonetti sur la question de l'euthanasie, le suicide assisté, etc. On va voir ce que ça donne. Mais c'est-à-dire que c'est peut-être ça la démocratie, c'est laisser non pas le hasard de la naissance décider, mais le hasard d'un loto, se disant ben, finalement il n'y a pas besoin d'être avec un très haut QI, un très haut QE pour être un bon représentant.
Oui, enfin, je voulais juste effectivement aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on le fait déjà pour les jurys d'assises, et puis par contre il faut faire attention aux personnes qui informent ces personnes-là, parce que je pense que sur certains aspects de la convention citoyenne qui a eu lieu, les personnes qui informent les citoyens pour prendre des décisions, si c'est les hauts fonctionnaires dont on parlait tout à l'heure, finalement ça revient au même que si c'était des politiques, puisque à la fin c'est eux qui vont récupérer les décisions, et puis bon, on tourne un peu en rond sur un pouvoir qui serait un peu finalement privé, enfin ça priverait le peuple du pouvoir, puisque ça le ramène à ceux qui l'ont. Enfin, juste en dessous, quoi. Donc c'est intéressant, mais là il faut redoubler finalement, je pense, de précautions pour que l'information elle soit encore, enfin elle soit bien apportée, puisque les personnes n'auront pas forcément l'intérêt ou quoi derrière. Mais effectivement c'est très intéressant.
Même le référendum, on l'a voté contre l'Europe.
On va vous donner un micro. Oui, oui. Le fameux référendum. Ouais. Depuis, on n'ose plus en faire.
On est d'accord.
on l'a voté contre l'Europe et puis on nous l'a imposé.
Ouais.
Donc voter, ça sert à quoi?
Un traité. Poses...
Oui, mais... Oui, oui, mais en attendant, on l'a voté contre, on nous l'a imposé. Traité ou pas traité,
hein?
Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, on l'avait voté, non. On nous l'a imposé. Bon. Ça sert à quoi de voter? Bah, les gens, ils restent à la maison, voilà. La dictature, elle est là, madame. Faut pas la chercher plus loin.
Oui, donc sur le fait que le vote ait été dévié, n'ait pas été reconnu, soit passé, si mes souvenirs sont exacts, par l'Assemblée nationale. Hein, voilà, ça a été. Donc c'est toujours pareil. On nous dit oui, mais l'Assemblée, c'est l'ensemble des représentants du peuple. Donc c'est le peuple d'une certaine manière. Il me semble du coup que je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole, parce que du coup je suis partie sur ma conclusion, moi, avec c'est bon, voilà, je suis partie sur ma conclusion parce que il me semble que le conseil, quand même, enfin les conseils qui peuvent être mis en place, je pensais au conseil d'éthique ou autres, qui n'ont de toute façon qu'un pouvoir consultatif, voilà, donc pas de pouvoir en fait, hein. Le problème, il est peut-être là, c'est-à-dire pourquoi, à partir du moment où il y a un groupement qui se fait, ce qui va être présenté n'a pour tâche d'une certaine manière que d'informer. Il ne peut pas avoir une capacité d'action sur les dirigeants beaucoup plus forte que ce qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le second point, moi, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'ils existent. Alors, ça veut dire quoi qu'ils existent? Ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens que nous sommes, à partir du moment où on nous met soit dans des structures, soit où on nous donne l'occasion de juger, d'analyser, de proposer, d'inventer, eh ben, on le fait. Donc, là encore, du coup, cette idée que nous serions incapables est peut-être une idée qui est battue en brèche. Donc, du coup, la démocratie, une démocratie devient autoritaire, pourquoi? Ben, peut-être parce que, justement, même si on le dénonce, notre ambivalence est d'attendre que les solutions viennent d'en haut. Voilà, et que le vote nous a appris, en fait, que nous pouvons déléguer notre propre pouvoir et donc notre propre responsabilité. Et à partir du moment où je délègue mon pouvoir, je me le retire à moi-même. Et donc, j'ai voté. Pourquoi effectivement m'engager davantage dans les, j'ai envie de dire, dans les questions politiques au sens très large qui nous entourent durant les 5 ans qui vont structurer les 2 votes donc que j'ai à faire. Si on enlève le vote, ça veut bien dire qu'il va falloir trouver un autre moyen de nommer les gens, parce qu'il va bien falloir quand même qu'il y ait des gens qui décident, qui prennent la décision. Et donc, quand on a des collectifs, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur des collectifs, il va y avoir des personnalités qui vont tout d'un coup émerger. Il y a des gens où, là, au plus près de nous, on va avoir envie qu'ils viennent effectivement nous représenter dans ce qui a pu être partagé lors de ces discussions. D'où le fait, encore une fois, que cette délégation, elle peut se refaire, mais autrement que par le vote. Il y a donc peut-être d'autres systèmes à trouver. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie, elle est peut-être à penser dans un mode élargi, et extrêmement élargi. C'est-à-dire elle fonctionne si effectivement elle fonctionne à tous les niveaux du corps social. Qu'elle fonctionne au niveau politique, qu'elle fonctionne au niveau professionnel, qu'elle fonctionne au niveau familial. Et donc, pour tout ça, ben, c'est l'éducation qui doit marcher. Et là, l'éducation, il me semble qu'on a un texte qui est toujours terriblement d'actualité. C'est le fameux « Qu'est-ce que les Lumières ?» d'Emmanuel Kant. Et en fait, « Qu'est-ce que les Lumières ?» nous dit Kant, c'est « Aude sapere ». Ose te servir de ton entendement. Voilà, ose. Parce qu'on n'ose pas. Alors, on n'ose pas pourquoi? Je pense quand même, soit parce qu'on n'est pas éduqué, peut-être, mais quand même quand on est éduqué, il y a la paresse. Il y a la paresse humaine.
Voilà. C'est tellement simple quand quelqu'un d'autre peut décider pour moi. C'est tellement simple quand à la tête de l'État, il y a cette figure du père bienveillant qui est capable de répondre à nos attentes, peut-être même avant même que je les formule. C'est fabuleux, ça, quand même. Il y a presque de la magie. Et donc, à partir de là, effectivement, je ne prends pas la responsabilité qui est la mienne de penser par moi-même, c'est-à-dire, nous dit Kant aussi, d'accepter de passer d'un état de minorité à un état de majorité. Et c'est pas qu'une question d'âge. C'est-à-dire, on peut rester mineur très longtemps, voire jusqu'à sa mort. Devenir majeur, c'est effectivement prendre le risque de penser, prendre sa responsabilité de citoyenne et de citoyen, et ce risque de penser, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est de penser l'intérêt commun. Et l'intérêt commun, il n'est pas simple à penser. Parce que effectivement, il y a une pluralité des visions du bien. Et donc, je crois que la démocratie, elle est autoritaire quand effectivement, elle veut imposer des décisions par la force, par le 49-3, en oubliant que le propre de la démocratie, c'est de prendre le temps. Et de prendre le temps de quoi ? De prendre le temps de la discussion. Et ça peut être long. C'est un régime qui est lent, le régime démocratique. Parce que personne ne voit le bien de la même façon. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde pense bien quand même qu'il faut tenter de diriger en vue de l'intérêt commun, pour le bien général. Et donc ce bien, il se gagne. Et ce bien, c'est pareil. On pense qu'à un moment donné, il va nous tomber du ciel, il va nous être donné. Il y a un bien commun. Non, le bien commun, il est à construire, il est à fabriquer, il est à inventer, il est à créer. Il y a un combat. Je crois aussi que si la démocratie, c'est une pluralité, c'est aussi un régime de la virilité, la démocratie. C'est qu'il faut se battre pour ses idées, il faut se battre pour ses convictions. Il faut parvenir à l'imposer par une logique argumentative. Et donc la force de la démocratie, là où justement elle casse le côté autoritaire, c'est à partir du moment où on a affaire à des échanges, à des débats d'idées, voilà, où les choses viennent se présenter aux citoyens que nous sommes et nous donnent à réfléchir. Voilà, dans la pluralité des conceptions du bien et en vue de tenter justement de trouver cet objectif commun, ce projet commun de vie qui fasse que tout d'un coup il y a comme un sillon qui s'ouvrirait à nous et dans lequel on accepterait tous effectivement de s'engager en acceptant des logiques de renoncement. C'est-à-dire, effectivement, le commun ou le public implique qu'à un moment donné, sur ce qui relève de mon intérêt personnel, je sois capable de céder pour la construction commune. Donc ça veut dire aussi être capable d'affronter la frustration. Et ça aussi, c'est une maturité affective pour le coup. On est aussi là dans l'émotionnel, c'est-à-dire savoir gérer ça. Et pour le gérer, encore faut-il le comprendre, encore faut-il l'accepter, l'intégrer. Et là encore, je crois que ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande que la démocratie aussi se jalonne à tous les niveaux, c'est-à-dire que on pense que la démocratie ne se fait pas simplement au niveau de l'État, mais se fait au niveau des associations, se fait au niveau de sa profession, de son métier, avec ses collègues, etc., etc. Donc, toujours se souvenir que la démocratie n'existe qu'effectivement, si elle prend au sérieux le fait qu'elle est concertation et elle n'est pas domination. Si elle oublie ça, on retombera dans des régimes autoritaires qui peuvent avoir le nom de démocratie s'ils le veulent, qui peuvent même en avoir la forme, mais qui ne le seront pas. C'est logiquement une organisation d'ego, E-G-A-U-X, où justement il faut savoir mettre un peu entre parenthèses son ego, E-G-O, voilà, et où la soif de pouvoir, la soif de domination, ce bonheur d'être en pleine lumière et adulé
doit laisser place à des capacités d'écoute, à des capacités d'analyse, à des capacités, encore une fois, de concertation. Savoir discuter et construire en commun, dans une discussion commune, un projet commun. C'est ce qu'Habermas nommait l'éthique de la discussion. Voilà. La démocratie, c'est d'abord et avant tout une éthique. Ouais, mais là aussi, notre rapport à l'argent, je pense que c'est bon aussi de le repenser, quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, la démocratie, en tant que politique, si elle le décide, elle a aussi le pouvoir de s'imposer à l'argent. Elle peut. La politique peut dominer le financier. Elle peut le réguler. Les lois dépendent du législatif. En tout cas, c'est voilà, c'est un idéal. C'est un idéal vers lequel on peut tendre. Une démocratie non autoritaire. Bel horizon à atteindre. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, nous avons le repas.